Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast issu de la chaîne YouTube Santé des enfants et environnement. Bonne écoute à vous. Bonjour les parents, verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé? C'est notamment en agissant à notre niveau de parent quand la réglementation ne protège pas efficacement nos enfants. Et avec cette vidéo, je vais terminer ma série sur les manques de la réglementation des substances chimiques et sur ce qu'on peut en tirer pour nos actions de parents. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui donc, je vais terminer ma série de vidéos thématiques portant sur la réglementation des substances chimiques. Comme j'habite en France, je parle toujours plus particulièrement de la réglementation de l'Union européenne. Mais comme cette réglementation est généralement considérée comme la plus protectrice au monde, les manques dont je vais parler devraient concerner à peu près tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais tout d'abord faire le bilan des différentes limites que nous avons vues dans les vidéos précédentes. D'abord, on connaît assez peu les expositions réelles de la population générale pour la plupart des substances. Ensuite, les tests de toxicité réglementaire sont assez limités. Par exemple, ils ne tiennent généralement pas compte des effets des mélanges, alors que nous sommes exposés quotidiennement à des centaines ou à des milliers de substances. En plus, ces tests couvrent mal les faibles doses, les périodes de vulnérabilité du développement des enfants et les effets décalés dans le temps. Et puis, ils ne tiennent pas compte de nombreux modes de toxicité, pourtant connus et préoccupants. Par exemple, certains mécanismes de cancérogénèse, les modifications épigénétiques, certaines voies de perturbation du système hormonal, etc. Et en parallèle, il y a un autre problème, c'est que ces tests très imparfaits, eh bien, leur potentielle évolution demande plusieurs années, typiquement entre 7 et 20 ans. Je crois qu'on peut voir chacune de ces limites comme autant de sources de fortes incertitudes. Et il me semble qu'elles ne sont pas près de disparaître, car certaines ne sont pas dues à des études qui seraient pas assez bien conduites, mais plutôt à la complexité de la démonstration à faire et à la mutation en cours d'une discipline, la toxicologie réglementaire. Et ainsi, selon Robert Barucci, il ne faut pas se bercer d'illusions. Nous allons devoir longtemps apprécier la toxicité des contaminants avec un certain niveau de doute. Par ailleurs, même avec toutes leurs limites, ces outils de connaissance sont de toute façon appliqués à relativement peu de substances. Par exemple, selon l'Agence européenne pour l'environnement, avec environ 100 000 substances de synthèse sur le marché européen, on n'en connaît bien qu'environ 500, soit environ 0,5%. Donc le sommet de l'iceberg, voire même plutôt l'extrémité du sommet. Et d'ailleurs, le titre de ce graphique est assez parlant, le territoire inconnu du risque chimique. En résumé, à ce stade, il existe peu ou pas de connaissances sur la plupart des substances chimiques présentes sur le marché. Et d'ailleurs, les inspections générales font un constat similaire. L'évaluation des risques, en particulier lorsqu'elle est réalisée dans un cadre réglementaire, est soumise à des attentes fortes. Cependant, celle-ci connaît des limites importantes. Cette analyse s'accompagne d'un autre graphique que je trouve assez parlant. La zone verte montrant l'ampleur des limites de l'action de l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques. Plus généralement, selon Georges Salines, l'incertitude est le fait dominant du domaine santé-environnement. La part de l'incertain est, et demeurera, considérable. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que parent? Je crois qu'on peut déjà en conclure qu'il ne faut pas attendre des certitudes de la part de la réglementation, et plus généralement, de la part de l'action des pouvoirs publics. En santé environnementale, la plupart du temps, on va se retrouver avec des preuves et des arguments partiels, plus ou moins forts, et qui ne permettront pas de conclure de manière certaine sur les risques de nombreuses substances. Ce ne sera pas du blanc ou du noir, ce sera plutôt différentes nuances de gris. Et la connaissance des incertitudes sera importante, comme la connaissance des faits avérés. En tant que parent, à mon sens, la première chose est donc de faire une sorte de deuil d'un besoin de certitude avant d'agir. L'incertitude n'implique pas forcément l'indécision ou l'action infondée, bien au contraire. Le niveau de preuve dont a besoin un parent pour agir prudemment est différent de celui dont a besoin un chercheur pour établir une certitude scientifique. La logique et l'objectif sont juste différents. Et puis je crois qu'il faut trouver un moyen d'être raisonnablement en paix avec ce type de contexte. Et à mon sens, cela passe notamment par réfléchir à comment gérer au mieux les risques pour nos enfants en présence d'incertitudes. Je compte approfondir ce sujet et vous faire quelques propositions à l'occasion de prochaines vidéos. Voilà pour ces éléments visant à nourrir nos réflexions de parents verts et prudents. Si vous paraissez utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces éléments, eh bien dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui agissent pour protéger leurs enfants sans attendre des certitudes complètes. À bientôt. Voilà pour ce podcast issu de la chaîne YouTube. Si vous trouvez ce type de conseil utile, si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, je vous invite à prendre une minute pour donner une note sur votre plateforme de podcast et y écrire votre avis. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup par avance si vous faites ça. Ça contribue à ce que mon travail atteigne le plus de parents possible. À bientôt.